Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. On revient à Philippiens, ça fait, je pense que depuis le mois de décembre, la dernière fois on a été dans l'épître, mais on veut poursuivre notre étude de ce livre. Philippiens au chapitre 2. Et je vous rappelle ce que nous avions dit, donc il y a plusieurs semaines maintenant, que la section que nous étions en train d'étudier, Philippiens chapitre 2, commence en fait jusqu'à partir du chapitre 1 au verset 27, où l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Philippiens 1, 27 dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. » Et il montre que cette manière digne de se conduire consiste en un esprit d'unité. Hein. Chapitre 1, verset 27, jusqu'à chapitre 2, verset 1 et 2. Il dit ici donc, chapitre 2, verset 1, il dit ici donc, il y a quelque consolation, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Et aussi, il montre que cette marche, cette vie digne en citoyen des cieux, en cette manière de vivre digne de l'Évangile, se manifeste aussi par un esprit d'humilité. Verset 3 et 4, chapitre 2, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est des versets que l'on aime bien prononcer, surtout que l'on aime bien dire aux autres, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent faire attention à nous. Hein. Quand on dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, on est en train de dire qu'il considère les miens. Et je crois que la sagesse de Dieu, de l'Esprit, et l'apôtre Paul, que Dieu a donné à l'apôtre Paul, c'est aussi ces choses, et pour expliquer ce que ça veut dire, eh bien, il va donner des illustrations, quatre illustrations. Et la première, c'est l'exemple par excellence, c'est l'exemple de Christ, qu'il donne à partir du verset 5, il dit « Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Puis il est existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et puis il donne son propre exemple aussi, l'apôtre Paul, quand il dit qu'il sert de... verset 17, par exemple, il dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours hein, avec vous. » Et donc, il donne son propre exemple, le fait que sa vie soit répandue, offert en sacrifice dans tout ce qu'il souffre. Et il dit qu'il se réjouit de cela. Et à partir du verset 24, il donne 19. Ici, il parle de deux hommes. L'un s'appelle Timothée et l'autre s'appelle Épaphrodite. Donc nous avions considéré l'exemple de Timothée la dernière fois. Et aujourd'hui, nous voulons regarder l'exemple d'Épaphrodite. Alors, et Timothée, on connaît l'épître de 1 et 2 de Timothée. On sait que c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul. On connaît la relation qui existe entre les deux. Timothée a été pasteur de l'église d'Éphèse. Donc c'est quelqu'un qui est connu et qui est aussi reconnu. Épaphrodite, la Bible n'en parle que deux fois. Et c'est dans l'épître aux Philippiens. Donc c'est à partir du verset 25 où il est parlé de lui. Et puis au chapitre 4 et au verset 18 où il est dit, où l'apôtre Paul dit « J'ai tout reçu ». Et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et puis les versets 25 que nous allons lire à partir de maintenant. Donc verset 25, l'apôtre Paul dit au début qu'il va envoyer, donc il parle de voyage, hein, qu'il va envoyer Timothée, mais qu'il attend pour l'instant et qu'il attend de voir l'état dans lequel sa situation avance. Et là, il dit, par contre, verset 25, il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite ». Donc, probablement, c'est lui qui apporte cette lettre que nous sommes en train de lire. Et quand les Philippiens vont lire cette lettre, eh bien, elle est arrivée avec Épaphrodite. Et Paul leur dit « Ben, j'ai envoyé Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. » Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc avec l'appel que Paul donne à mener une vie digne de l'Évangile, avec cet appel qu'il donne concernant l'humilité que l'on doit avoir, l'esprit d'unité, l'esprit d'humilité, il donne des exemples, il donne en final cet exemple particulier d'Épaphrodite, un homme dont on sait vraiment peu de choses. Et ce que l'on peut voir ici d'une manière globale, c'est que Épaphrodite, c'est l'exemple d'un esprit de renoncement à soi. C'est ce que Paul développe dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, quand il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. » Il dit « Voilà un exemple, un autre exemple, un exemple humain. » Celui d'Épaphrodite. Donc le titre de ce message ce matin, c'est Épaphrodite, ou l'exemple d'un esprit de renoncement à soi. Un esprit de renoncement à soi. Comment se manifeste cet esprit de renoncement chez Épaphrodite? Alors on peut voir plusieurs choses. Je vous propose de voir que c'est un esprit, premièrement, de soumission à la direction du Seigneur. Un esprit de soumission, Épaphrodite, c'est l'esprit d'une soumission à la direction du Seigneur. L'apôtre Paul dit, verset 25, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite et mon compagnon d'œuvre, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Et si on lit cela dans une autre traduction, par exemple Darby, il dit « Mais j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon d'armes, mais votre envoyé est ministre pour mes besoins. » Donc, Épaphrodite, c'est à la fois l'envoyé de l'église de Philippe vers Paul, mais c'est aussi l'envoyé de Paul vers l'église de Philippe. Il dit, j'ai pris la décision de l'envoyer. Et je crois que ça nous montre que Épaphrodite est un homme avec un esprit soumis à la direction du Seigneur, et cette direction du Seigneur, même quand elle est montrée à travers soit l'Église, ou soit la décision de l'apôtre Paul. Il n'a pris aucune décision. C'est pas lui qui a choisi d'aller à Philippe, et c'est pas lui qui choisit de revenir de Philippe. Parce que l'apôtre Paul dit, « J'ai estimé nécessaire de vous l'envoyer. » Et au verset 27, il dit « Je l'envoie avec d'autant plus d'empressement. » C'est moi qui l'envoie. Et on voit la soumission de cet homme. Premièrement, la soumission au choix de l'église locale. Épaphrodite est un envoyé. Le mot, c'est le mot qui, avec lequel on dit apôtre. C'est le même mot, hein. Donc, il y a les apôtres l'apôtre Paul, Pierre, Jean, etc. Mais il y a aussi ceux qui sont des envoyés par les églises. On les appelait aussi des apôtres. Des personnes qui sont mandatées. Donc, Épaphrodite est mandaté par l'église de Philippe. Et Paul insiste vraiment sur ce fait dans la formulation de sa phrase quand il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon de combat, mais votre envoyé. » Il insiste sur le fait qu'il est d'abord votre envoyé. C'est comme ça qu'il le désigne. Et donc Paul est prisonnier à Rome, hein, on s'en souvient. Et dans ce temps-là, les prisonniers n'étaient pas à la charge de l'État, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout dans les prisons, il y a les télévisions, je crois. Et même, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, on se demande, est-ce qu'on va mettre Internet dans les prisons, ou pour que les... etc. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, c'était pas ainsi. Et il était à la charge des membres de la famille ou des amis. Et c'est pour cela que l'église de Philippe avait ce souci pour l'apôtre Paul et désire lui envoyer ce dont il a besoin pour subvenir à ses besoins dans la prison. Rappelez-vous, dans l'épître au Timothée, l'apôtre Paul écrit à Timothée et il est en prison à Rome et il lui dit « Amène-moi quoi ?» Le manteau que j'ai laissé, hein, je ne m'appelle plus dans quelle ville, hein, mais il dit de me ramener ça ainsi que les parchemins. Et il dit « Tâche d'arriver avant l'hiver ». Il était dans une situation pratique de dénuement. L'État ne s'occupait pas des prisonniers. Et donc, quand il y avait un prisonnier comme celui-ci, chrétien, c'est l'Église qui s'en occupait. Ce sont les frères et sœurs qui s'en occupaient. Donc, l'Église de Philippe, elle sait tout cela et elle désire secourir l'apôtre Paul. Elle organise une collecte. Et puis, certainement avec d'autres choses, peut-être des vêtements, peut-être des livres, on ne sait pas, peut-être beaucoup d'autres choses. Et elle choisit un homme pour le faire. Choisit Épaphrodite. Parce qu'elle avait probablement confiance dans cet homme, elle connaissait son caractère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il accepte. Il accepte la mission. Il ne dit pas, non, moi je veux rester ici, c'est trop difficile, etc. Il accepte. C'est l'Église qui choisit Épaphrodite et Épaphrodite l'accepte. Et cette mission était une mission difficile. Maintenant, on parle beaucoup de voyages quand on a passé des vacances et puis on arrive à la rentrée, qu'est-ce qu'on dit? Où est-ce que tu étais cet été? Tu as voyagé où? Où est-ce que tu es allé? C'est quelque chose d'extraordinairement agréable de voyager. N'est-ce pas? Et tout le monde a envie de voyager, on a envie d'aller dans un pays, connaître autre chose, etc. Mais là, le voyage n'était pas quelque chose... on arrive dans l'aéroport, tout est beau, c'est climatisé, ça sent bon, on rentre dans un avion. Non, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Il y avait à peu près un millier de kilomètres entre Philippe, un peu moins peut-être entre Philippe et Rome. Et le voyage durait, d'après les spécialistes, à peu près 6 semaines. Imaginez? 800 kilomètres, on fait ça en voiture, on n'a rien de temps maintenant. D'accord? En avion, n'en parlons pas. Mais à cette époque, ça prenait beaucoup de temps. Il fallait prendre probablement un bateau, marcher, etc. Et il y avait donc un contour géographique qui rendait le voyage difficile. Et Épaphrodite connaissait la difficulté de ce voyage-là. Il connaissait les risques qui étaient attachés à ce voyage. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il tombe malade. Et c'est probablement au cours de ce voyage qu'il tombe malade. Et même qu'il est malade jusqu'au bord de la mort, dit l'apôtre Paul. Mais Épaphrodite accepte néanmoins cette mission, parce qu'il est un homme qui se soumet au choix de l'Église, et il considère le choix de l'Église comme le choix de Dieu. Il est prêt à renoncer à ce qu'il avait probablement dans sa ville pour pouvoir suivre le Seigneur. Il n'était peut-être pas tout seul, parce que avec une telle mission, souvent les gens, ils étaient accompagnés, comme si vous n'avez pas le temps de le lire, mais en 2 Corinthiens 8, versets 16 et 22, l'apôtre Paul aussi parle d'une collecte, il parle de frères qui ont été choisis pour porter la collecte. Mais néanmoins, il était le responsable pour cette mission de l'église de Philippe auprès de l'apôtre Paul. Et Épaphrodite se soumet au choix de l'église. Au choix de son église locale. Et il est soumis aussi, deuxièmement, à la directive de l'apôtre Paul. Parce que Paul dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Et Épaphrodite accepte de revenir à Philippe. Lorsqu'il est parti pour Philippe, il n'est pas parti pour revenir tout de suite. Il est parti pour porter ce don, mais probablement aussi pour rester avec l'apôtre Paul. Ce qui fait dire ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit après. Il dit, il le renvoie, il explique pourquoi il le renvoie. Et il demande à l'église de le recevoir avec joie. C'est que l'église ne l'attendait pas d'aussitôt. Donc Épaphrodite était parti dans son esprit avec un projet d'aller porter ce don, ces choses, et puis d'assister aussi l'apôtre Paul pendant un temps, on ne sait pas combien de temps, mais pendant un certain temps en tout cas. Et Paul estime qu'il faut le renvoyer. Il faut le renvoyer à cause de son état probablement, à cause de son désir aussi de voir les frères, de sa souffrance pour son église, et puis à cause de la miséricorde que Dieu lui a faite et dont Paul aussi lui-même a bénéficié. Il prend tout ça comme la raison pour laquelle il veut l'envoyer. Mais Épaphrodite ne dit pas non, je suis ici mandaté par l'église de Philippe. Et c'est à l'église de Philippe de décider de mon retour. C'est elle qui m'a envoyé. Non, chaque fois qu'il est placé sous une autorité, il se soumet à cette autorité. Et il accepte la décision prise à son égard comme étant celle du Seigneur. Que l'église, que ce soit l'église qui le choisisse pour aller à Philippe, ou que ce soit l'apôtre Paul pour le renvoyer à Philippe, Épaphrodite se soumet et il retourne. Parce qu'il montre ici une grand esprit de renoncement et de soumission au Seigneur. Il reconnaît en fait dans l'Église, dans la direction de l'Église et dans la direction de l'apôtre Paul, la direction du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. On dit, moi j'ai ma conviction sur quelque chose. Il dit, moi j'ai ma conviction sur autre chose. Mais c'est une chose profondément différente que de croire à la souveraineté de Dieu d'une manière telle que l'on croit que la direction de l'Église et la direction d'un frère comme Paul, le responsable, c'est la direction de Dieu pour ma vie. Parfois, on est dans des situations où on peut être en lutte avec notre église ou avec quelqu'un sur lequel on est responsable, parce qu'on dit, voilà, moi je veux faire comme ça, etc. Mais c'est une chose que de croire à la souveraineté de Dieu d'une manière telle qu'on dit qu'elle se manifeste, j'accepte ce que le choix qui est fait pour moi ici ou la direction que l'on me donne ici comme étant la volonté de Dieu. Parce que je crois que Dieu est souverain sur toutes ces choses et qu'il peut travailler à travers ces personnes pour pouvoir accomplir sa volonté dans ma vie. Ça arrive des fois, je vous donne un exemple, que un jeune homme s'intéresse à une jeune fille et que la jeune fille dise non. Que l'Église explique à cette personne, elle dit non. Et on peut, avec sa conviction profonde, dire, mais moi je suis convaincu que c'est cette personne que Dieu a pour moi. C'est une manière de montrer qu'on ne croit pas à la souveraineté de Dieu. Parce que si on croit à la souveraineté de Dieu, cette personne dit non, on doit l'accepter comme la volonté de Dieu. Si l'Église, avec cette personne, dit tu devrais arrêter, on doit accepter cela comme étant la volonté de Dieu. Si on n'est pas prêt à le faire, c'est qu'on ne croit pas véritablement à la souveraineté de Dieu. Quand l'enfant de Dieu est soumis à Dieu, il dit, je prends cette réponse comme venant de toi. Les choses peuvent changer par ailleurs, c'est possible, oui. Mais dans ce moment, si la réponse elle est comme cela, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que Épaphrodite agit. Il se soumet à la direction de l'Église. Il dit pas, non, moi je veux faire ça. Et l'Église ne le sait pas, mais c'est ça que Dieu veut pour moi. Non, il se soumet, il dit, ça c'est la volonté de Dieu pour moi, je l'accepte. Paul dit, tu rentres maintenant. Même si tu devais rester plus longtemps, tes projets vont changer. Mais il dit ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. Parce qu'il sait que les projets que forme le cœur viennent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Oui, on doit faire des projets. L'homme doit faire des projets. Proverbe chapitre 16, je crois le dire. Hein. L'homme doit faire des projets, mais il ne doit pas oublier que Dieu est souverain sur toutes choses et que Dieu peut changer les plans. C'est arrivé à l'apôtre Paul, il a projeté d'aller à un endroit et puis il dit, hop, le Saint-Esprit a fermé la porte et puis il a changé de direction, il est allé là-bas. Parce qu'il a cru que c'est la volonté de Dieu. Mais il aurait pu dire, non, mais j'ai eu l'appel pour cet endroit-là et je veux aller là, même si les portes se ferment, je fonce là-dedans. Non, il ne dit pas cela. Il dit, s'il n'en a pas permis, donc il va par là-bas. Il accepte tout comme étant sous contrôle de Dieu. Deuxième chose que nous voulons considérer ici, c'est que aussi Épaphrodite est animé d'un esprit de coopération avec les autres. Il coopère avec l'Église et il coopère aussi avec l'apôtre Paul. Les premiers mots de Paul sont « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre » et de combat. Rien ne nous est dit sur la teneur du ministère d'Épaphrodite. On ne sait pas ce qu'il a fait exactement auprès de Paul. Quel service il lui a rendu? Combien de temps il est resté avec lui à Rome? On ne sait rien de tout cela. Mais seulement, on sait qu'il a été associé à Paul dans une relation d'affection et de collaboration dans le ministère. L'apôtre Paul dit, c'est mon frère. C'est quelque chose, hein? Il ne dit pas « je vous envoie Épaphrodite », il dit « je vous envoie mon frère Épaphrodite ». Grand apôtre Paul, d'accord ? Mon frère Épaphrodite. Comme il avait parlé pour Onésime, l'esclave, il dit à Philémon « tu le reçois comme mon frère ». Il y avait une relation d'amour qui s'est établie entre ces deux frères. Et dans cette époque, hein, la notion de frère ne dépassait rarement le cadre probablement de la famille. La société était très cloisonnée. Il y avait d'un côté les juifs, de l'autre côté les païens, les militaires, les civils, etc. Et il y avait des barrières qui se dressaient, qui étaient infranchissables. Rappelez-vous ce que les juifs disent à Pierre lorsqu'ils ont appris qu'il est rentré chez Corneille. Ils lui disent, tu es rentré chez un païen. Et Pierre a dû leur dire, oui, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux, etc. Et après, ils ont été apaisés. Mais c'est une marque particulière du christianisme que de faire les hommes et les femmes frères et sœurs entre eux, appartenant à la même famille de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni grec ni juif, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de barrière que l'Évangile ne puisse franchir. Et l'esclave devient le frère du patron, etc. Le juif, le frère du non-juif en Christ. Et l'apôtre Paul souligne que Épaphrodite a été un homme avec lequel il a pu vivre en tant que frère véritablement. Ils étaient sans doute différents l'un de l'autre. Épaphrodite, avec son nom, hein, d'origine païenne, hein, grecque, et l'apôtre Paul était un juif. Mais c'est pas ce qui les différenciait qui est important ici, c'est ce qui les reliait, leur identité fondamentale, le fait qu'ils étaient frères. Frères parce qu'ils sont tous les deux nés de nouveau, tous les deux ils ont été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Donc ça c'est, ils étaient frères de fait, mais ils étaient frères dans l'expérience aussi. Et quand l'apôtre Paul dit c'est mon frère, ça veut dire qu'ils ont partagé une relation d'affection, d'amour dans les échanges, dans la prière, dans le travail. Ils ont vécu véritablement en frère. Parce que Épaphrodite était un homme avec un esprit vraiment de coopération avec les autres. Il s'est donc associé avec son frère dans cette relation fraternelle, mais aussi il a manifesté cela par une attitude de collaboration dans le travail. C'est quelqu'un qui travaille avec les autres. Le terme compagnon, ici quand l'apôtre Paul dit, c'est mon compagnon d'œuvre et mon compagnon de combat. L'apôtre Paul dit ça à d'autres endroits aussi. Le mot compagnon, c'est un mot qui veut dire ouvrier avec. Ouvrier avec. C'est comme s'il dit, il a été ouvrier avec moi dans le ministère. Il a été ouvrier avec moi dans les luttes et dans les combats que j'ai pu connaître. Il n'a pas été ouvrier contre. Il a été ouvrier avec. Parfois, on est ouvrier contre et pas ouvrier avec. On a notre position. Lui, il a sa position. Je travaille. Et parfois, il te montre qu'il sait travailler avec les autres. C'est facile, chers frères et sœurs, de travailler seul, de disposer de notre temps comme on veut, de nos moyens comme on veut, de dire, moi, j'ai mon ministère, je sers et je le fais tout seul. Je préfère faire ça tout seul parce que comme ça, au moins, je n'ai pas de problème, de conflit, etc. Mais la Bible, ce n'est pas ce qu'elle enseigne. L'apôtre Paul ne dit pas, il a été un serviteur, bien, il a fait son travail dans son coin, on n'a rien à lui reprocher. Non, il dit, il a été ouvrier avec moi, on a pu travailler ensemble. Quelqu'un qui est animé d'un esprit de renoncement tel que l'apôtre le demande dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, c'est quelqu'un qui travaille avec les autres, qui peut s'associer avec son frère dans l'église pour travailler ensemble. C'est ce qui honore Dieu. C'est très facile quand on est tout seul, mais quand il faut entreprendre et être obligé de consulter l'autre ou d'attendre l'autre, de considérer l'opinion de l'autre et pas simplement la nôtre, eh bien, ce sont des situations qui sont plus difficiles. Mais ce sont des situations qui mettent vraiment en évidence de quel caractère nous sommes ou de quel esprit nous sommes animés. Quand on fait tout seul, on n'a de compte à rendre à personne. Mais quand on doit faire avec les autres, notre caractère surgit, n'est-ce pas ? Et Dieu veut que nous soyons au courant de ce qu'il y a au fond de notre cœur pour que nous puissions le corriger. Il veut que nous soyons à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Donc Épaphrodite était un homme qui a su s'associer, bien sûr, avec Paul pour être ouvrier avec lui. Dans l'œuvre, mais aussi dans le combat. Et certainement, Paul a eu à subir des conflits. Eh bien, il était là, dans le moment où il était là. Il y a des gens, parfois, qui sont prêts à œuvrer tant que les choses vont bien, et puis quand il y a des difficultés, on abandonne le bateau. Je sais pas qui c'est qui parlait, avec un frère, on parlait de chrétiens autostoppeurs, c'est ce qu'on disait, hein. Ils sont prêts à monter dans la voiture, et puis si le conducteur a une panne, ils descendent, ils laissent le conducteur, et puis continuent leur chemin. D'accord? Et parfois, on peut agir un petit peu comme cela. Mais Paul dit que Épaphrodite était un compagnon à la fois d'œuvre dans le travail, mais aussi un compagnon, il a été avec lui quand il fallait soutenir aussi du combat, pendant le temps, en tout cas, où ils ont été ensemble. Ce qui n'était pas le cas de tous. Rappelez-vous ce que Paul dit à Timothée, il parle de sa première défense devant la justice romaine, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. 2 Timothée 4, 16. Que cela ne leur soit point imputé. Donc, il souligne le fait que ça n'est pas si évident. Beaucoup, ils disent, ceux qui étaient en Asie, ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Et rappelez-vous, il disait, quand il parlait un peu plus tôt, il disait que personne ici ne cherche, tout le monde ici cherche son intérêt, personne ne cherche, n'a à cœur votre intérêt, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est évident et suffisamment rare pour que l'apôtre Paul le souligne et dit, voilà un exemple de quelqu'un qui renonce à lui-même. Il travaille avec les autres. Ils vont dans le même sens. Troisièmement, ici, donc je voudrais souligner aussi que Épaphrodite montre un esprit d'abnégation pour la cause de Christ. Le dictionnaire Larousse donne du mot abnégation la définition suivante. C'est le sacrifice total au bénéfice d'autrui, de ce qui est essentiel pour soi. Sacrifice total au bénéfice de l'autre, de ce qui est essentiel pour soi. Quoi de plus essentiel pour nous que la vie, n'est-ce pas? Et le diable disait de Job à l'Éternel, vous vous rappelez, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Touche à sa vie et tu verras, n'est-ce pas? Et notons ce que Paul dit au verset 30 concernant Épaphrodite. Il dit, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Épaphrodite est un serviteur qui pense en premier lieu aux autres. Il est animé d'un esprit d'abnégation. Il est prêt à payer le prix de sa vie s'il le faut. Il fait vraiment preuve d'un esprit d'abnégation. Il est soucieux du bien-être de Paul. Et on apprend qu'Épaphrodite a été gravement malade, n'est-ce pas? Et durant cette mission, il a été malade, verset 27, et tout près de la mort, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Et à cette époque, la maladie ne laissait pas beaucoup de chance. Hein. Quoi qu'il faut, quand on lit des choses comme ça, il faut se remettre parfois un peu dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas de médicaments, de doliprane, que l'on prend rapidement quand on a un mal de tête, des antibiotiques ou des choses comme cela. Et maintenant, je crois que la possibilité de se soigner a fait que nous avons mis une distance entre la maladie et la mort. Mais à l'époque, la maladie était voisine de la mort. Hein? Le taux de mortalité était très, très élevé. On mourait pour des choses, ce qu'on appelle maintenant des choses bénignes. Et donc, c'était pas rien que d'être malade. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que l'apôtre Paul dit que c'est pour remplir la mission qui lui a été confiée qu'il est allé jusqu'à cette extrémité. Autrement dit, il est malade, non parce qu'il a fait n'importe quoi, parce qu'il a mangé n'importe quoi, mais il est malade parce qu'il sert Dieu. Et parce qu'il sert Dieu d'une manière désintéressée, avec un esprit d'abnégation. Il dit, c'est ça qui l'a amené à cette extrémité-là. Donc, durant ce voyage, il tombe malade et il est au seuil de la mort. Et l'apôtre Paul dit, il a exposé sa vie pour suppléer à l'absence des Philippiens. Les Philippiens désiraient aider Paul, mais tous ne pouvaient pas y aller pour l'aider, n'est-ce pas? Et donc, il mandate Épaphrodite pour le faire et il le fait. Il met un point d'honneur à le faire jusqu'au bout, même s'il doit payer de sa vie. On peut penser qu'il se dit, même si je dois payer de ma vie, il faut que j'arrive au bout de ce qui m'a été confié. Exposer sa vie, le terme signifiait un peu mettre de côté, il était utilisé souvent dans les jeux, et c'est comme s'il, en fait, il disait, le texte disait, il a joué de sa vie. On utilisait ça pour les gens qui jouaient des jeux de hasard, etc. Ah, bien sûr, il n'a pas joué sa vie à la houlette russe, hein, mais ça veut dire qu'il n'a pas eu peur de mettre sa vie en jeu pour accomplir la mission qui lui était confiée. Il estime les besoins de Paul et il estime les besoins de survie de Paul au-dessus de sa propre vie. Il considère l'intérêt des autres comme étant au-dessus de ses propres intérêts. Il le fait pour Paul, mais il le fait aussi pour l'église de Philippe. Verset 26, si on remonte, l'apôtre Paul dit, « Il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. » On voit ici des sentiments profonds d'Épaphrodite pour son église. La version Darby dit, « Car il pensait à vous tous avec une vive affection. » Et il était fort abattu parce que vous aviez entendu dire qu'il était malade. Et le mot qui est traduit par « désirer » ici, c'est le mot qui est utilisé au chapitre 1, verset 8, lorsque l'apôtre Paul dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Christ ». Il a un désir fort, profond de voir ses frères. On parlait de ça hier à la table en famille. Il disait, est-ce que nous avons ce désir de rencontrer nos frères et sœurs dans la semaine ou dans le dimanche? Ou est-ce qu'on dit, bon, j'espère qu'il ne sera pas là aujourd'hui? Hein? Où est-ce qu'on est? Épaphrodite, c'est le mot qui est utilisé pour soupirer. Quand il dit, mon âme soupire après toi, c'est le même mot. Il a ce soupir, ce désir de rencontrer ses frères. Mais pas seulement cela, si vous regardez, la Bible dit qu'il était fort en peine. Darby dit qu'il était fort abattu, ici dans la traduction. Et ce mot est utilisé une autre fois dans la Bible. C'est pour Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, et qu'il dit que Matthieu dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est exactement le même mot qui est utilisé ici, que Paul utilise ici, pour décrire l'état dans lequel se trouve Épaphrodite. Il est fort en peine, rempli d'angoisse, troublé dans son être intérieur. À cause de quoi ? À cause de sa maladie ? Non, pas à cause de sa maladie. Il est dans cet état à cause de l'effet de sa maladie sur ses frères qui sont à 800 ou 1000 kilomètres. C'est-à-dire, ce n'est pas à lui qu'il pense, à sa maladie et à son état de malade. Il pense, il est triste, troublé parce que ses frères ont appris qu'il est malade et que cela a causé du trouble chez ses frères. Et la peine de ses frères le fait souffrir profondément. Pas sa maladie qui lui fait souffrir, même s'il est extrêmement malade, au bord de la mort, l'apôtre Paul dit, il est fort en peine parce que vous avez entendu dire qu'il était malade. Si je souffre, je veux premièrement qu'on pense à ma souffrance, n'est-ce pas ? Je veux que l'on s'occupe de moi parce que je souffre. Je deviens subitement le centre du monde parce que je souffre. Non. J'ai droit à toutes les attentions parce que je souffre. Je pense que tous, on peut penser à comment on réagit lorsqu'on a des difficultés. On voudrait qu'on pense à nous, premièrement. C'est moi qui souffre, c'est pas toi. Épaphrodite souffre, mais il souffre davantage parce que ses frères souffrent. Parce que c'est quelqu'un qui a appris à mettre les souffrances de ses frères au-dessus de ses propres souffrances. Vous voyez, ce que Paul dit quand il dit que chacun doit considérer les intérêts des autres avant de considérer les siens, il ne dit pas, tu dois dire au frère, pense à ma souffrance d'abord. Non, il dit, toi, tu dois penser à la sienne d'abord. Au lieu de te focaliser sur la tienne. Et Épaphrodite était un homme avec cette attitude. Il place la souffrance de l'Église au-dessus de la sienne. Il souffre davantage à cause de l'effet de sa maladie sur le moral de l'Église qu'à cause de l'effet de sa maladie sur lui-même. Parce que c'est un homme avec un esprit d'abnégation au service de ses frères et de son Église. Et je termine en disant, regardez ce que l'apôtre Paul, quatrièmement, dit, donne comme exhortation à l'Église concernant Épaphrodite. Jusque-là, c'est descriptif ce qu'il fait. Là, maintenant, c'est un impératif qu'il donne. Il dit, à partir du verset 29, il dit, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Ici. Et on trouve ici vraiment un impératif qui est fait à l'Église. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière. L'apôtre Paul connaît la tendance naturelle de l'homme à la suspicion. En voyant arriver Épaphrodite, il pourrait penser à, déjà, il n'a pas bien rempli sa mission, il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas été respectueux envers Paul, il est obligé de revenir, ou il ne faisait pas l'affaire, etc. Et donc Paul envoie Épaphrodite avec la lettre et puis il dit, recevez-le. Il dit, ce genre de personnes, vous devez les recevoir. Vous ne devez pas simplement les recevoir, vous devez vous réjouir de les recevoir. Et vous devez les honorer. On aime honorer ceux qui font des choses extraordinaires, n'est-ce pas ? Des chevaliers solitaires sur leur cheval blanc qui sont des conquérants, qui remportent, n'est-ce pas ? Qui passent quelque part, ils évangélisent et puis il y a des masses. Ah ouais, ça c'est quelqu'un. Paul dit, ça c'est quelqu'un que vous devez honorer. On le connaît à peine. L'église de Philippe le connaît, mais nous on le connaît à peine. Il est malade. Il n'accomplit pas la tâche jusque, je veux dire, il ne reste pas le temps qu'il devrait rester. Mais il a une attitude telle que Paul dit, cet homme-là, vous devez apprendre. Vous devez apprendre à honorer des personnes comme celle-là. Des personnes qui font le travail que Dieu leur confie en collaboration avec les autres. Pas des espèces d'esprits solitaires, des gens qui savent se soumettre dans une tâche avec les autres, travailler dans la communion avec les autres, aimer les autres, qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes quand ils le font. Même si c'est une tâche des plus ordinaires. On ne sait pas si c'était un homme qui prêchait, un homme qui était tenu. Non, la Bible ne dit pas tout ça. Tout ce qu'on sait de lui, c'est son caractère. C'est son caractère de serviteur qui va jusqu'à renoncer à lui-même. Et Paul dit, recevez-le. Parce qu'il sait que naturellement, il y a des personnes qu'on aime recevoir, des personnes qu'on aime honorer. Mais ce ne sont pas celles-là qu'il faut, qui ont besoin d'être honorées. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 15 et 18, à 18, l'apôtre Paul disait, encore une recommandation. Je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Voilà, une famille qui s'est dévouée au service des saints. Ça ressemble à Épaphrodite, ça. Si. Il dit, ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes. D'autres textes disent même de la soumission pour de tels hommes. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Et il dit, je me réjouis de la présence de Stéphanas. Il dit aux Philippiens, réjouissez-vous de la présence d'un tel homme. Il dit, moi je me réjouis de la présence des gens comme Stéphanas ou de Fortunatus et d'Achaïus. Et il dit, ils ont suppléé à votre absence, exactement ce qu'il dit pour Épaphrodite, ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Il ajoute, sachez donc apprécier de tels hommes. L'exhortation pour nous ce matin à apprécier ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur, même s'ils le font de manière cachée, secrète, mais qui sont des personnes qui aiment les autres, qui pensent aux autres, qui s'attachent aux autres, qui recherchent la communion avec les autres, qui se soumettent à un travail ensemble, d'équipe avec les autres. Paul dit, honorez de telles personnes. Et le Saint-Esprit nous dit, honorez de telles personnes. Quelques conclusions, chers frères et sœurs. Le renoncement à soi, ce n'est pas une affaire de connaissance ou de définition, comme souvent on le fait, mais une réalité qui doit se vivre dans les relations. Si vous lisez bien ce texte, il est question de l'église de Philippe, il est question de l'apôtre Paul, il est question, je mets Jésus-Christ à part, hein, mais je parle des hommes pécheurs, ici il est question d'Épaphrodite et de Timothée. On n'a pas le temps de le voir, mais si vous regardez, chacune de ces personnes a cherché le besoin de l'autre, l'intérêt de l'autre. L'Église a cherché le besoin de l'apôtre Paul en envoyant Épaphrodite pour lui amener des dons. Mais l'apôtre Paul a cherché le besoin de l'Église en envoyant et renvoyant Épaphrodite à l'Église. Il dit, je vous le renvoie afin que vous vous réjouissiez de le voir. Épaphrodite a pensé aux besoins de Paul. Il est allé jusqu'à l'extrémité de sa vie pour Paul. Il a pensé aux besoins de l'Église. Mais Paul aussi a pensé aux besoins d'Épaphrodite. Parce qu'il dit, il désire vous voir. Je le renvoie. C'est mon. Il était confortable avec Épaphrodite. C'est mon frère. C'est mon compagnon d'œuvre. C'est mon compagnon de combat. Il a servi pour mes besoins. Et certainement, quelqu'un comme ça, on veut le garder à côté de soi. Mais il dit, je vous l'envoie parce que aussi il a le désir de vous voir. Parce que Dieu m'a fait miséricorde en lui gardant la vie. Puis moi aussi, je veux à mon tour que vous puissiez vous réjouir. Et il ne pense plus à lui, il pense à l'église de Philippe. Il pense aussi à Épaphrodite. Et donc pour nous ici, hein, il n'est pas question de parler d'humilité en parlant de mots, de formules, mais de chercher à vivre vraiment cela dans nos relations. Deuxièmement, l'œuvre de Dieu ne connaît pas de travailleurs solitaires. Dieu veut que la collaboration des croyants témoigne du triomphe de l'Évangile sur notre égoïsme naturel. Bien sûr, il y a des endroits où il faudra des missionnaires qui implantent quelque chose et qui soient tout seuls au début. Mais c'est pour créer quoi ? Une église, une communauté. N'est-ce pas? Et donc, nous devons demander à Dieu de nous délivrer de cette attitude qui consiste peut-être, comme ça dit, moi tout seul, c'est moi, comme le frère a dit, je pense tout à l'heure pendant la Sainte-Cène, hein, on pense des choses pour nous tout seul. Non, on doit discerner qu'on est dans un corps, hein, le corps de Christ. On n'est pas nous tout seul. Je fais mon travail et puis terminé. Non, l'œuvre de Dieu ne connaît pas ainsi les travailleurs solitaires. Nous devons travailler, apprendre à travailler avec, être des ouvriers avec les autres. Dieu nous a placés ainsi. Il dit, il a placé les membres dans le corps afin que les uns aient soin des autres, que les membres aient soin les uns des autres. En Corinthiens chapitre 12, il y a mille et une manières d'être ouvrier avec. Hein, ça ne veut pas dire faire la même chose. Hein, Épaphrodite n'a pas fait la même chose que l'apôtre Paul. Mais ils étaient quand même ouvriers ensemble, ils ont travaillé ensemble. On peut être ouvrier en soutenant dans la prière. C'est une manière d'être associé. Hein, Corinthiens 2 Corinthiens 1, versets 10 et 11 le disent, mais je ne vais pas le lire ici. Mais on peut aussi être ouvrier avec, être compagnon d'œuvre en exerçant l'hospitalité, parfois, à ceux qui sont itinérant. Et ça, c'est clairement expliqué dans 3 Jean, versets 5 à 8, où l'apôtre Jean dit que ceux qui reçoivent chez eux les frères, eh bien, ils deviennent des ouvriers avec eux dans leur ministère. Ils ne seront pas en train de parcourir les mers, etc., ou les continents pour annoncer l'évangile, mais le seul fait d'accueillir et de recevoir chez soi, c'est une manière d'être ouvrier avec. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Troisièmement, la vision de l'œuvre de Christ est ce qui doit motiver notre engagement, notre collaboration avec les autres et notre souci des autres. Paul dit d'Épaphrodite, c'est pour la cause et l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie pour suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Voici ce qui doit motiver l'œuvre de Christ. Nous travaillons dans l'œuvre de Christ. On raconte un jour qu'un contrat avait été signé par des constructeurs pour un grand bâtiment. Et il y a un jeune garçon qui s'est présenté pour tenter une embauche. Il dit, quand il y a des comme ça, bon, on va essayer de voir si je trouve un travail à faire. Et il était d'aspect vraiment très pauvre. Et visiblement, il n'avait pas du tout de compétences. Alors, sur un chantier comme ça, où est-ce qu'on va l'utiliser? Alors, il y a un contremaître qui était là, puis qui a dit, bon, allez, on va le prendre. Par pitié, on va lui donner quelque chose à faire qui va nous aider, mais bon, mais sans grande importance. Et on lui a donné un petit travail sur le chantier. Et un jour, le chef de chantier passe, et puis il ne le connaissait pas, il voit ce jeune homme, il interpelle, il dit donc, toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Et le jeune garçon lui dit, ah monsieur, vous ne savez pas que je suis dans l'affaire, moi? Et il est en train de lui dire, mais moi, je participe à la construction de ce monument, je suis dans cette affaire-là. Ok. Et c'est ainsi que le croyant doit voir les choses ici. On est dans l'œuvre de Christ. Je suis dans cette affaire. Peu importe ce que je fais, peu importe si je transporte des dons, je suis un convoyeur de fonds qui transporte des dons à des milliers de kilomètres pour quelqu'un, ou si je suis un prédicateur ou un érudit, ça n'a pas d'importance. Épaphrodite a fait cela parce qu'il avait la conscience qu'il travaillait dans l'œuvre de Christ, pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas convoité la place, ce jeune homme qu'on en parle, il n'a pas convoité la place du chef de chantier, il n'a pas convoité la place de l'ingénieur, ni celle de l'architecte. Souvent, quand on voit un beau bâtiment, on dit, oh, quel architecte a fait cela? Hein? Ah, c'est Monsieur Eiffel, en gradateur tour Eiffel. Et on se dit, il a écrit tout Monsieur Eiffel, mais il n'a jamais écrit le nom de l'ouvrier qui a vissé le boulon qui est ici. Jamais c'est écrit ça. Pourtant, il a participé à cette grande œuvre, n'est-ce pas? Mais quelle grâce! Dans l'œuvre de Dieu, Dieu n'oublie personne. Et on le voit avec la mise en valeur d'Épaphrodite. L'apôtre Paul met en valeur pour dire que des hommes comme cela, Dieu n'en oublie pas. Il dit même que Dieu a eu miséricorde, a eu pitié de lui. Il a travaillé sous le regard de Dieu, qui a vu sa maladie, qui a vu la situation de l'apôtre Paul, qui est intervenu dans sa vie pour l'aider. Et donc, si nous considérons l'œuvre de Dieu et son royaume, nous pourrons dire, je suis dans l'œuvre, et que ce soit ce qu'on exerce, que ce soit l'hospitalité, que ce soit en soutenant financièrement, que ce soit par la prière, que ce soit en tamponnant des traités, que ce soit en faisant le taxi pour les autres, eh bien, nous sommes dans l'œuvre de Christ. Et ce que nous faisons est est important. Et nous devons être animés de cet esprit de renoncement, d'oubli de notre orgueil pour travailler ainsi. Et puis aussi, je dirais, quatrièmement, que les sentiments chrétiens ne sont pas naturels, même chez les chrétiens. Ils ont besoin d'être encouragés. Paul dit, recevez de tels hommes. Il ne suffisait pas que Épaphrodite arrive pour qu'il soit dans la joie. Il a fallu que Paul les exhorte à recevoir Épaphrodite. Et même quand on est un enfant de Dieu, on a besoin d'être exhorté à avoir des sentiments qui sont des sentiments chrétiens. L'apôtre Paul a dit aux Romains, « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, la diaconesse, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Recevoir est un exercice que nous devons apprendre à pratiquer. Honorer est un exercice que nous devons apprendre à pratiquer. Nous réjouir de la présence des autres est un exercice que nous devrions apprendre à pratiquer. Honorer nos épouses, n'est-ce pas ? Dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Ça commence dans le foyer. Alors moi, je fais mon truc, mon côté. Elle fait son truc de son côté. Chacun pour soi. On marche bien comme ça. Il dit, honorez votre épouse comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos épouses, vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Les enfants sont amenés à appeler à honorer leurs parents. L'apôtre Paul disait même dans Romains, rendez l'honneur à qui vous devez. Non, c'est Jésus qui a dit ça, je pense. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je pense que c'est Paul dans Romains 13, peut-être. Voilà, merci. Et puis, dernièrement, je dirais que, aussi engagé que puisse être un croyant, il n'est pas à l'abri des maux qui affectent la race humaine. Et il ne doit sa vie qu'à la miséricorde de Dieu. Épaphrodite était un homme très engagé, mais il est tombé néanmoins malade. Je sais qu'il y a des milieux où on dit quand on sert le Seigneur, on est un enfant de Dieu, on ne devrait pas être malade. La Bible s'élève en faux contre cela. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est malade. C'est parce qu'il accomplit une mission des plus spirituelles qu'il est tombé malade. Et la Bible ne dit pas que l'apôtre Paul est intervenu à imposer les mains et puis à exercer un don de guérison, non. Apparemment, il était malade longtemps. Tellement qu'il est arrivé au bord de la mort. Et c'est miséricordieusement que Dieu l'a guéri. Quel que soit le moyen par lequel nous sommes guéris, que ce soit parce qu'il y a quelqu'un qui a un don de guérison, comme à l'époque de l'apôtre Paul, ou que ce soit maintenant par les médicaments, par le médecin, nous ne devons la vie qu'à la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui guérit. Quelle que soit la méthode instrumentale qui est utilisée. Et Paul souligne cela. Il dit que Dieu a eu miséricorde de lui, il a eu miséricorde aussi de moi. Et ne croyons pas que parce que nous servons Dieu, nous serons à l'abri de tout. Non, pas du tout. On n'est pas à l'abri de la mort, on n'est pas à l'abri de la maladie, on n'est pas à l'abri des difficultés. On est à l'abri sous la miséricorde de Dieu, qui décide de notre vie comme il veut, qui peut la garder à un Épaphrodite et la laisser terminer pour un Étienne. Il choisit, il est souverain, même aussi dans ce domaine. Lorsqu'on est animé d'un esprit de renoncement, comme l'a été Épaphrodite, eh bien, on est tel que ce que l'apôtre Paul décrit dans Philippiens 2, verset 3, et verset 4. Et qui est ce que Dieu veut pour nous, chers frères et sœurs ? Ce n'est pas un exemple extraordinaire qui nous est donné ici. C'est l'exemple d'un homme commun, d'un simple membre d'une église qui vit grâce à l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Un esprit de renoncement à soi-même. Que Dieu nous aide à considérer ces choses. Et pas seulement à les considérer dans notre tête, mais à chercher vraiment aller vivre pour sa gloire dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Prions. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole et pour ces exemples que tu nous donnes. Et nous savons que ces choses ne sont pas à notre portée naturellement. C'est parce que Épaphrodite avait une vie centrée sur toi qu'il a pu vivre ainsi. Et nous te prions de nous aider à regarder à toi chaque instant de notre vie, te laisser agir dans nos cœurs. Détourne-nous de notre esprit individualiste et égoïste. Et que nous nous laissions façonner par ton esprit. Détourne-nous de nos opinions, Seigneur, et que nous nous laissions vraiment façonner par ta parole. Incline nos cœurs vraiment vers ta parole, dans l'obéissance à ta parole, pour la gloire de ton nom. Et que, ensemble, nous puissions travailler, nous puissions collaborer, nous puissions nous aimer, nous puissions penser d'abord aux autres, pour que ton Église ici soit un véritable témoignage du triomphe de l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.